Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. La presse et le devoir. Au programme, m'étonner l'entraide, les impacts du budget fédéral sur votre porte-monnaie et quand les républicains réglementent les règles. Bonne écoute.
Mitonner l'entraide. Un texte de Véronique Larocque, paru le 25 mars 2023 dans La Presse. Alors que les hausses successives du prix du panier d'épicerie pèsent lourd sur le budget des Québécois, des gens s'unissent aux fourneaux un peu partout en province pour économiser sur le coût des repas. À la veille de la Journée nationale des cuisines collectives, La Presse a rencontré les membres d'un de ces groupes qui, à leur façon, contribuent à freiner l'insécurité alimentaire. Bienvenue dans leur cuisine. Le bruit des couteaux qui tranchent oignons et gousses d'ail résonne dans la pièce des cuisines collectives du Grand Plateau. Les quatre participants installés autour de la table sont très concentrés à leurs tâches respectives. Que préparent-ils en ce vendredi matin? De la sauce à spaghettis et de la soupe à l'orge et aux légumineuses, répond avec entrain Nicole Beaulieu. La femme de 69 ans participe depuis 6 mois à ce groupe de cuisine collective qui se réunit mensuellement pour préparer 2 recettes. Après chaque matinée de popote, elle repart à la maison avec 10 de plats qu'elle peut réchauffer dans les semaines suivantes. Le tout pour la modique somme de 1,50 à 2,50 par portion. Cuisiner en grande quantité permet certes de réaliser des économies. Mais si les coûts sont si faibles, c'est aussi parce que certains ingrédients, comme le sel, le sucre, la farine et les épices sont fournis par les cuisines collectives du Grand Plateau en échange d'une petite contribution financière. Selon Statistique Canada, les prix des aliments ont connu, en 2022, leur plus forte hausse en 40 ans, soit près de 10 %. Dans ce contexte, environ 40 % des organismes qui proposent des groupes de cuisine collective ont vu leur nombre de participants augmenter, rapporte le regroupement des cuisines collectives du Québec. À un point tel que certains ne peuvent pas répondre à la demande en raison d'un manque de ressources et ont dû créer des listes d'attente. Aux cuisines collectives du Grand Plateau, on a aussi remarqué un engouement grandissant. Quand il y a eu une annonce au courant de l'été que le coût du panier d'épicerie allait augmenter de 5 à 7 %, on a reçu beaucoup d'appels, indique Pénélope Stuart, responsable de la vie associative et des communications pour l'organisme qui fête cette année ses 30 ans. Mais l'aspect financier, ce n'est pas tout, s'empresse d'ajouter la directrice générale, Carole Derry. On le comprend bien, lorsqu'on voit le groupe s'activer autour des cuisinières commerciales. Un membre ajoute les tomates à la sauce à spaghetti, un autre verse le bouillon pour la soupe. « Est-ce qu'on met toute la pâte de tomate? » demande Nicole Beaulieu. « On devrait. La pâte de tomate, c'est important pour épaissir. » lui répond Pierre Gendron, un autre participant. Tranquillement, des liens se tissent entre ces 4 aînés qui avoue ressentir parfois une certaine solitude. Je me suis dit, ça va me sortir un peu de mon confinement, répond d'ailleurs l'homme de 65 ans lorsqu'on lui demande ce qui lui a donné envie de participer à un groupe de cuisine collective. Je suis seule chez moi, je ne fais rien. Au lieu de rester à regarder la télévision, je me suis dit que j'aime mieux venir ici et apprendre à cuisiner? Indique, de son côté, Franz Lemaire. Car bien qu'il ne s'agisse pas d'un cours de cuisine, l'activité est animée par Louise Gamache, qui est présente pour guider les participants et leur offrir des conseils. Aujourd'hui, elle leur a réservé une surprise. Alors que la sauce et la soupe mijotent, ils prépareront aussi un dessert, des muffins à l'avoine et aux canneberges. On n'est pas une banque alimentaire. On n'est pas un centre de dépannage. On ne distribue pas de paniers. Nous, on travaille en éducation alimentaire. L'adage dit « Vaut mieux montrer à quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson. » C'est un peu ça notre philosophie, explique la directrice générale, Carole Derry, en spécifiant que l'organisme accueille les gens, peu importe leur revenu. Aux cuisines collectives du Grand Plateau, cet apprentissage débute très jeune, puisque certains groupes sont composés d'enfants de 4e et de 5e année du primaire. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une éducation sur la saine alimentation. Pourtant, bien manger, ça a des impacts sur toute la vie, note sa collègue Pénélope Stuart. Nicole Beaulieu peut en témoigner. La femme qui mangeait très rarement des plats végétariens a découvert ce type de cuisine et ses bienfaits grâce à l'organisme. « Ça nous fait goûter à de nouveaux mets », se réjouit-elle. La matinée de cuisine tire à sa fin. Les participants s'assoient ensemble pour planifier leur rencontre du mois d'avril. Que concocteront-ils? Colette Samuel propose un mets qui lui rappelle son enfance. Des galettes de morue. Ses comparses acceptent sa suggestion. Après avoir trouvé une recette en ligne, chacun choisit les ingrédients qu'il apportera. « À la prochaine !» lance-t-il en se quittant, leur petit plat sous le bras. Trois conseils pour se nourrir à moindre coût. Numéro 1. Allez consulter vos organismes communautaires, suggère Pénélope Stuart des cuisines collectives du Grand Plateau. Il existe de nombreuses initiatives, particulièrement pour les gens à faible revenu. Il y a des paniers de légumes en partie subventionnés qui sont offerts sur le plateau, donne en exemple sa collègue Carole Derry en mentionnant les services des ateliers d'éducation populaire du plateau. Numéro 2. Initiez-vous à la cuisine zéro gaspillage. Il y a plein de choses qu'on ne consomme qu'à moitié. Par exemple, la partie verte des poireaux. Au lieu de la mettre au compost, on peut l'utiliser pour faire des soupes, explique Pénélope Stuart. Des villes et des organismes présentent parfois des conférences gratuites sur le sujet. On peut aussi consulter le site « Sauve ta bouffe » qui recèle une foule de conseils et de recettes zéro gaspille. Numéro 3. Participer à une cuisine collective proposent également en chœur Pénélope Stuart et Carole Derry. En plus de préparer des plats à moindre coût, cette activité permet de nouer des amitiés, font-elles valoir. La Journée nationale des cuisines collectives est l'occasion de découvrir celle près de chez vous, puisque de nombreuses activités sont organisées dans la province ce dimanche. Aux cuisines collectives du Grand Plateau, par exemple, il y aura préparation et mise en conserve de carottes marinées. 1 065 $ et 60 sous, somme qu'une famille canadienne de 4 personnes devra dépenser de plus en 2023 pour se nourrir. Source, rapport annuel sur les prix alimentaires, Université Dalhousie. 1082, nombre de groupes de cuisine collective au Québec en mars 2022. 7169, nombre de personnes participant à une cuisine collective dans la province en mars 2022. Source, Regroupement des cuisines collectives du Québec. C'était « Mitonner l'entraide », un texte de Véronique Larocque, paru le 25 mars 2023 dans La Presse. Les impacts du budget fédéral sur votre porte-monnaie. Un texte de Clémence Pavic, paru le 28 mars 2023 dans Le Devoir. Aide pour faire face à l'inflation, régime de couverture des soins dentaires, soutien aux étudiants. Le gouvernement fédéral a déposé son budget et plusieurs mesures qui s'y trouvent auront un impact sur votre porte-monnaie. En voici quelques-unes. Montant unique pour l'inflation. Pour aider les Canadiens à faire face à la hausse du coût de la vie, Ottawa propose d'instaurer un montant unique pour l'épicerie, qui équivaut à un doublement du versement du crédit d'impôt pour la taxe sur les produits et services, TPS. Les personnes qui bénéficieront de cette mesure sont celles qui reçoivent déjà le crédit pour la TPS. Combien pourriez-vous recevoir si vous êtes admissible? Un couple avec deux enfants pourrait recevoir jusqu'à 467 $. Une personne seule sans enfant pourrait recevoir jusqu'à 234 $. Une personne âgée recevrait 225 $ en moyenne. Quand ce montant sera-t-il versé? Tout dépend de quand sera adoptée et signée la législation qui mettra en œuvre cette mesure, dont le coût total s'élève à 2,5 milliards et qui bénéficiera à 11 millions de ménages canadiens à revenus faibles ou modestes. Nouveau régime de couverture des soins dentaires. Par ailleurs, Ottawa propose un nouveau régime de couverture des soins dentaires. Ce régime s'adressera aux Canadiens qui ne sont pas déjà couverts par une assurance dentaire et dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $. Spécificité supplémentaire, ceux dont le revenu familial est inférieur à 70 000 $ n'auraient pas à payer de quote-part. Le régime, qui devrait être disponible d'ici la fin de l'année 2023, sera administré par Santé Canada avec l'appui d'un administrateur de prestations tiers. Les détails concernant les conditions d'admissibilité seront connus plus tard cette année. La ministre Freeland a toutefois d'ores et déjà prévenu que l'instauration de ce régime se ferait par phase. Selon l'entente, entre le nouveau Parti démocratique et le Parti libéral, les enfants de moins de 18 ans, les aînés et les personnes handicapées devraient être les premières à avoir accès au régime. Modification au régime enregistré d'épargne-études. Le fédéral propose aussi d'augmenter les limites de retrait au régime enregistré d'épargne-études. Le plafond applicable à certains retraits de REEE passerait de 5 000 à 8 000 $ pour les étudiants à temps plein et de 2 500 à 4 000 $ pour les étudiants à temps partiel. Autre nouveauté, les parents divorcés ou séparés pourraient bientôt ouvrir un REEE conjoint pour leurs enfants. De l'aide supplémentaire pour les étudiants, si Québec le veut. Le budget comprend également une série de mesures pour aider les étudiants à faire face à la hausse du coût de la vie. Entre autres, Ottawa bonifie les bourses d'études canadiennes de 40 % permettant aux étudiants à temps plein de recevoir jusqu'à 4 200 $. Toutefois, les étudiants du Québec ne bénéficieront pas de cette bonification puisque la province administre son propre programme de prêts et bourses. Ottawa indique tout de même que le Québec pourrait recevoir un financement du fédéral pour fournir une aide comparable. Et aussi, congé pour fausse couche. Ottawa travaille sur l'instauration d'un congé pour aider les Canadiens endeuillés par une fausse couche. Cela ne concernerait toutefois que les employeurs à charte fédérale. Les détails concernant le nombre de journées de congé ou l'entrée en vigueur de cette mesure ne sont pas encore connus. Chasse aux frais indésirables. Le gouvernement annonce qu'il fera la chasse aux frais cachés. Exemple, frais d'itinérance des télécommunications élevés ou frais de concert et d'hôtels nébuleux. En renforçant la collaboration avec les organismes de réglementation, les provinces et les territoires. Diminuer les frais de carte de crédit. Le gouvernement a obtenu de Visa et de Mastercard des engagements à réduire les frais pour les petites entreprises tout en protégeant les points de récompense des consommateurs canadiens offerts par les grandes banques canadiennes. Cela fera-t-il baisser la facture des consommateurs? Le gouvernement l'espère, mais ne peut le garantir. C'était « Les impacts du budget fédéral sur votre porte-monnaie », un texte de Clémence Pavic, paru le 28 mars 2023 dans Le Devoir. Les républicains réglementent les règles. Un texte de Boucard Diouf, paru le 25 mars 2023 dans La Presse. Les républicains de la Floride ont décidé qu'après leurs assauts sur les droits des minorités sexuelles, parler aux enfants du primaire du cycle menstruel est l'autre projet d'exclusion sur lequel il faut légiférer. Alors, on apprenait cette semaine qu'ils travaillent sur un projet d'interdiction d'expliquer aux fillettes des connaissances de base sur leur système reproducteur. Dans mon ancienne vie, j'ai enseigné la physiologie de la reproduction à quelques cohortes d'étudiantes au baccalauréat en sciences infirmières. Pour évoquer le caractère systémique de cette diabolisation historique des menstruations, j'aimais leur parler des thèses du médecin viennois Béla Schick. En 1920, ce docteur a sorti une théorie dite des ménotoxines qui fera beaucoup de dommages. Tout a commencé le jour où le clinicien dit avoir remarqué que son bouquet de roses offert à une femme menstruée avait fané trop rapidement. Il se gratte la tête dans son labo et valide probablement ce qu'il savait idéologiquement indéniable. Les règles contiennent des ménotoxines, des poisons qui sortent par la peau des femmes et qui peuvent provoquer le flétrissement des plantes et le pourrissement hâtif de la nourriture. Il venait d'actualiser une croyance venue de l'époque romaine. Ici, Les menstruations étaient aussi considérées porteuses de toxines qui pouvaient rendre une femme folle. Même le réputé Pline l'Ancien dira que les femmes menstruées sont capables de gâcher le goût du vin, provoquer des hécatombes dans les colonies d'abeilles et détériorer la nourriture. Les toxines menstruelles émanaient de la peau de la femme, de son toucher, de son regard et même de son haleine, écrira le sage. Une caricature misogyne que beaucoup de penseurs occidentaux perpétueront. J'ai rigolé en découvrant un reliquat français de cette connerie rapportée dans la revue Clio par Jean-Yves Le Naour et Catherine Valenti. Vers la fin du 19e siècle, disent-ils, à Anjou, on tentait encore de se débarrasser des chenilles qui infestaient un champ de choux en le faisant traverser à plusieurs reprises par une femme menstruée. Le Québec n'a pas échappé à ses sornettes. Même parler directement du sang menstruel était tabou à une époque pas si lointaine. En entrevue avec le magazine Québec Science, l'ethnologue Suzanne Marchand disait qu'entre 1900 et 1950, certaines expressions utilisées pour parler indirectement des menstruations avaient un lien avec la couleur rouge. On disait « Les Anglais sont arrivés », car l'uniforme anglais était de cette couleur. On pouvait aussi mentionner l'arrivée du cardinal, dont l'habit sacerdotal rappelait le rouge du sang menstruel. Ici aussi, dit-elle, on retrouvait les croyances qui voulaient que les menstruations détériorent la nourriture, empêchent les gâteaux de lever, gâtent les sauces et surissent les conserves. À savoir si la ménopause libérait la femme de cette charge, Suzanne Marchand répond que lorsque les menstruations s'arrêtaient, on présumait que tout ça restait à l'intérieur et que la femme pouvait devenir contagieuse. Être ménopausée rimait donc avec être méno-intoxiqué. Longtemps réduit au silence dans le monde occidental par la science, la libération sexuelle et les luttes féministes, voilà qu'à la faveur de l'évolution régressive d'une certaine droite rétrograde, le regard empreint de souillure et de dégoût que les religions ont toujours posé sur les menstruations revient hanter l'Amérique. Cette obsession maladive pour le corps de la femme est souvent le fait de mâles terrorisés par ce grand pouvoir naturel féminin que représente la certitude de couver sa génétique. Devant l'incertitude de la paternité que la nature a flanquée aux gars, la phallocratie s'est surpassée dans l'histoire pour surveiller, enfermer, contrôler, exclure et même diaboliser la sexualité des femmes. Des violences qui doivent à la jalousie, la possessivité, la peur et l'insécurité pathologique d'une certaine masculinité. Je parle surtout ici de la frousse de ne pas être le dépositaire du spermatozoïde fécondant qui traversera cet utérus mystérieux et qui, depuis la nuit des temps, est l'objet de tous les mythes anxiogènes pour le mâle humain. Pourtant, les règles, c'est juste l'expression de la générosité d'une femme qui augmente le confort et les ressources nutritionnelles dans son utérus en prévision de l'arrivée d'un œuf fécondé qui ne s'est pas présenté. Pourquoi ne pas s'ouvrir à la science et les voir poétiquement comme un simple mouvement de flux et le reflux qui rythme la perpétuation de notre espèce dans la biosphère? L'Amérique, qui tasse la science au profit du dogmatisme, c'est du déjà vu. Au début du 20e siècle, nombreux sont les enseignants qui y ont été ostracisés par ces gens qui maudissent Darwin et pensent que la Terre est le centre de l'univers. C'est seulement en réalisant que les Soviétiques se préparaient secrètement à aller sur la Lune que l'Amérique se réveillera en sursaut. Elle comprendra, comme disait le défunt Stephen Jay Gould, que la science et la religion sont deux magistères qui gagnent à ne pas partager des ondes d'empiètement. Aujourd'hui, c'est la Chine qui doit scruter avantageusement ce nouveau programme républicain d'abrutissement qui instrumentalise l'inculture, le complot et l'exclusion pour garder le pouvoir. Une mouvance qui a culminé avec l'élection de Trump et dont le contrôle du corps de la femme est au centre des priorités. Je plains ces hommes qui ne connaissent pas la frontière entre aimer une femme et posséder une femelle. Pendant que la planète se meurt, ces gens font de l'appropriation utérine leur grande priorité. Vraiment pitoyable. C'était « Quand les républicains réglementent les règles », un texte de Boucard Diouf, paru le 25 mars 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.